France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Le comeback d'un géant du cinéma, Francis Ford Coppola, présentera son prochain long-métrage à Cannes le mois prochain. L'information doit être officialisée dans quelques heures. Un film hors norme dont il rêve depuis près de 40 ans. Explication dans un instant et puis dans une vingtaine de minutes, les sorties cinéma de ce mercredi. Ce sera avec Alexis Demeyer. À suivre encore, ce désaccord au sommet de l'État. À quelle vitesse réduire le déficit ? Très vite, demande Bruno Le Maire. On se calme, exige Emmanuel Macron. Décryptage dans quelques minutes. Nous irons en Allemagne également. Les Allemands ont fait 60 milliards d'euros d'économies à l'automne dernier. Et nous verrons aussi que les erreurs de com se succèdent au gouvernement. Bonjour Victor Dolan.
Bonjour Jérôme.
La dernière en date concerne la mise en œuvre de la taxe lapin.
Oui, acte 1, Gabriel Attal annonce sa mise en application pour janvier 2025, samedi dernier. Acte 2, le ministre de la Santé assure que cette taxe lapin sera prélevée via une empreinte bancaire déposée sur les plateformes de prise de rendez-vous. Mais acte 3, Doctolib, la première plateforme, est opposée à cette empreinte bancaire.
On parle des patients qui n'honorent pas leurs rendez-vous médicaux. A tout de suite Victor. Nous parlerons de ce bug à l'Agence Nationale de traitement automatisé des infractions. Les points du permis de conduire ne sont plus retirés depuis plusieurs mois. Et en Dordogne, des habitants, eux, installent un faux radar pour faire ralentir les chauffards.
Il y a des gens qui ralentissent quand ils le voient, parce que comme on peut voir, ils passent beaucoup trop vite.
180, 200 km à l'heure, il y en a qui passent au moins à cette vitesse-là.
On devant. A des motards qui passent à cette vitesse-là. Ah oui. C'est des barges, ils roulent comme des fous. Ils n'ont pas l'air de se rendre compte.
Reportage à suivre. À partir de 13h30, un film choc qui dénonce l'influence de l'islamisme à l'école. Il s'intitule Amal, un esprit libre, en salle la semaine prochaine. C'est un plaidoyer pour les professeurs qui se battent. Son réalisateur Jawad Ralib et l'actrice Lubna Assabal sont nos invités. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Le plaidoyer d'Éric Fotorino pour le sommeil. Et puis juste avant 14h, la carte blanche de Raphaël. Aujourd'hui, l'icône du jazz, le trompettiste américain Chet Baker. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Il a déjà deux palmes d'or à son palmarès pour Apocalypse Now et Conversation secrète. Ces films ont marqué l'histoire du cinéma, mais après 13 ans d'absence, le réalisateur américain Francis Ford Coppola va donc faire son retour et ce sera, et c'est maintenant quasi certain, en France, au Festival de Cannes. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
À 85 ans, l'auteur de la trilogie du Parrain y présentera Mégalopolis.
Voilà, c'est le magazine américain Variety qui vend la mèche, annonçant même une date pour un tapis rouge d'anthologie le 17 mai. Francis Ford Coppola, Adam Driver, Giancarlo Esposito, les comédiens principaux du film, pour une présentation en compétition. Coppola est un réalisateur qui n'a pas eu peur de prendre de risques, y compris financiers. 120 millions de dollars de budget pour ce film qu'il a décidé à 85 ans de produire tout seul, loin des studios. Sa venue sur la croisette ne sera officialisée que demain, lors de la conférence de presse d'annonce des films à sélectionner. Le délégué du festival, Thierry Frémaux, veut sans doute se réserver la primeur d'une nouvelle qui fera bondir de joie les cinéphiles du monde entier. C'est un film très attendu. Il l'avait déjà dit dans une interview, toujours au magazine Variety, Francis Ford Coppola fait partie des réalisateurs qui ont bâti la légende de Cannes, où il a reçu deux palmes d'or. Ce serait un honneur de le recevoir. Ça fait 40 ans que le cinéaste travaille sur ce projet, prévu pour sortir sur les écrans en fin d'année. Mégalopolis raconte la guerre à couteau tiré entre un architecte ambitieux et le maire d'une grande ville comme New York à reconstruire après un accident. Voilà qui nous promet deux heures de grand spectacle et un casting très alléchant avec Adam Driver, John Voight, Laurence Fishburne, Shia LaBeouf ou encore Dustin Hoffman.
Merci de nous avoir mis l'eau à la bouche, Corinne Pellissier, avant ce festival de Cannes le mois prochain et puis les sorties cinéma de ce mercredi. C'est donc dans une vingtaine de minutes. Là, ce n'est pas Apocalypse Now, mais la situation est critique si l'on en croit le ministre de l'économie. Je parle de la France et de son déficit public. Le déficit, la différence chaque année entre les recettes et les dépenses publiques. Alors le gouvernement est sous pression après le dérapage du budget l'an dernier et alors que le déficit pour cette année s'annonce plus élevé que prévu. Ce sera en fait au-dessus de 5% selon les informations ce matin du journal Les Échos. Ce chiffre figure sur le document qui détaille nos objectifs budgétaires, document qui doit être présenté aujourd'hui. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Maxence, vous êtes à l'Élysée où se tenait ce matin le Conseil des ministres. Alors ce sujet est explosif en ce moment dans l'exécutif, car Emmanuel Macron et Bruno Le Maire ne sont pas du tout d'accord.
Oui, le président a de plus en plus de mal à supporter son ministre et il le fait savoir. L'Élysée et Matignon ne prennent plus de pincettes. Oui, les relations sont tendues. Oui, il y a un problème, Bruno Le Maire. Et non, ce n'est pas qu'un simple arbitrage perdu sur l'absence de budget rectificatif. Il prépare sa sortie, estime un proche de Gabriel Attal. Il veut jouer à « je vous l'avais bien dit », mais ça ne marche pas. Le chef de l'État lui a récemment rappelé sur le thème « ça fait quand même 7 ans que tu es là, Bruno ». Difficile de trouver ce matin un ministre, un conseiller, un député pour le défendre. Il paie des années à se croire tout puissant, glisse un de ses collègues. Il n'a pas de troupes, pas de point de chute s'il part. Fin décembre, Emmanuel Macron avait envisagé de le remercier. Cette hypothèse reviendra sans doute au lendemain des européennes.
On se demande aussi, Maxence Lambrec, jusqu'à quel point Emmanuel Macron est intéressé au fond par cette question de la dette et du déficit.
Non, ça n'a jamais été son sujet et ça ne va pas le devenir aujourd'hui. Confidence d'un de ses proches. Et d'ailleurs, lors de sa grande conférence de presse mi-janvier, quand la question des milliards d'économies à faire lui est posée, il répond en une phrase et s'attarde sur les cours de théâtre à l'école et le congé de naissance. Ce n'est pas dans son logiciel, confirme un ministre. Ce qui l'intéresse, c'est la croissance. C'est que la taille du gâteau augmente et non pas qu'on aille découper des petites parts à droite à gauche. Seul le plein emploi réglera au fond cette question. Et d'ailleurs, il a vite enterré lors de son premier quinquennat la promesse de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Vous ne l'entendrez pas parler d'austérité ou de rigueur. Vocabulaire qu'il juge anxiogène, mauvais pour les affaires et donc pour la taille du gâteau. Voilà pourquoi Bruno Le Maire est prié de se taire.
Merci Maxence Lambrec à l'Élysée pour Inter. Alors on entend les difficultés du gouvernement français à s'accorder sur un plan d'économie de 10 milliards d'euros cette année. Il y a un pays européen qui a fait beaucoup d'économies il y a quelques mois, c'est l'Allemagne, contraint par sa cour constitutionnelle de trouver 60 milliards d'euros l'automne dernier. Et la coalition au pouvoir, David Philippot, avait réussi à se mettre d'accord.
Oui, entre les trois partenaires de coalition, les libéraux, les sociaux-démocrates et les écologistes, il a fallu arbitrer entre des priorités parfois diamétralement opposées. Le chancelier Scholz a par exemple mis son veto aux coupes dans les dépenses sociales. Les ministères, c'est classique, ont dû se serrer la ceinture. 800 millions d'euros en moins pour ceux de l'économie et des affaires étrangères, et notamment l'aide au développement. La subvention pour les voitures électriques a été carrément supprimée. Voilà pour les dépenses en moins. Côté recettes, ce sont des mesures favorables à l'environnement qui ont été privilégiées. Hausse des taxes sur les billets d'avion, nouvel impôt sur les emballages plastiques pour les industriels, et puis l'augmentation de la taxe sur le CO2 à la pompe et le fioul domestique, qui est passé au 1er janvier de 25 à 45 cents la tonne. Enfin, malgré les manifestations paysannes, l'avantage fiscal accordé au diesel agricole a été supprimé. L'Allemagne revient ainsi dans les clous budgétaires avec un déficit prévu d'1,5%.
David Philippot à Berlin pour Inter. Parmi les réformes en France qui vont permettre de faire rentrer de l'argent dans les caisses, il y a la réforme des retraites, relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans. Mais cette réforme pose aussi la question de l'emploi des seniors et de leur taux de chômage supérieur à la moyenne. Syndicats de salariés et patronat avaient jusqu'à hier soir pour trouver un accord sur ce point. Mais les négociations ont échoué et c'est donc le gouvernement qui va reprendre la main. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Vous étiez plutôt optimiste hier, vous étiez avec nous autour de cette table à cette même heure, vous nous parliez d'un accord possible. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord et on se demande, en tout cas les syndicats, si les dés n'étaient pas pipés quelque part d'avance dans ce dossier.
Ouais, c'est le sentiment, l'impression, la conviction même parfois de plusieurs négociateurs. De toute façon, le patronat ne voulait pas dès le départ de ces négociations sur la vie au travail, rappelant au passage qu'elles avaient été accordées à l'époque par le gouvernement aux syndicats pour leur faire passer la pilule du recul de l'âge de la retraite à 64 ans, que cette réforme, le MEDEF y était favorable et donc peu enclin à discuter de concessions quelles qu'elles soient sur les seniors ou autre. Y avait-il un intérêt tout simplement pour les organisations patronales à ces échanges? La question est presque dans la réponse, ironise un syndicaliste, avec des propositions qui n'ont pas bougé d'un iota entre le premier document transmis au syndicat pour signature et le tout dernier, à peine quelques virgules changées par-ci par-là. Des termes que la CFDT, FO, la CGT, la CFE-CGC demandaient à voir disparaître et sur lesquels le patronat n'est jamais revenu. Ne fallait-il pas que tout ça finisse finalement dans le mur, ose même un négociateur, sachant pour lui qu'il suffirait aux patrons de décrocher leur téléphone pour échanger avec Bercy. Pourquoi finalement perdre du temps avec les syndicats?
Merci Maxime Debs pour ce décryptage. Voilà qui ne va pas contribuer à l'apaisement entre les syndicats et le gouvernement. Le projet de réforme de la fonction publique. Les discussions ont débuté hier et le ministre Stanislas Guérini a annoncé ce matin sur Inter qu'il voulait simplifier le licenciement des fonctionnaires.
Il faut qu'on puisse entrer plus facilement dans la fonction publique, qu'on puisse être promu plus facilement dans la fonction publique et qu'on puisse en sortir plus facilement. Le statut n'a jamais expliqué, jamais, pas même en 1946 quand il était instauré, qu'on ne pouvait pas avoir de conséquences, qu'on ne pouvait pas licencier quelqu'un qui ne fait pas bien son travail. Je vais vous donner un chiffre. Il y a dans l'État 2,2 millions d'agents publics. L'année dernière, il y a eu 13 licenciements.
Une déclaration de Stanislas Guérini ce matin sur Inter. Et dans la foulée, le syndicat CGT dans la fonction publique fait savoir que le préavis de grève annoncé il y a quelques jours pour les Jeux Olympiques, que ce préavis a bien été déposé et s'est justifié, estime Mylène Jacquot, secrétaire générale du syndicat CFDT fonction publique. Pour elle, le gouvernement met le feu aux poudres.
Licenciement, mise en concurrence des agents entre eux, on est, je le dis un peu familièrement, à côté de la plaque. Il devrait, au contraire, être soulagé et content qu'il y ait aussi peu de licenciements pour insuffisance professionnelle. On a aujourd'hui des agents qui sont engagés, qui sont confrontés à des difficultés sans nom. Et maintenant, on nous dit qu'on va augmenter le nombre de licenciements, alors qu'on a besoin de recruter des dizaines de milliers d'agents. Notre intention, ça n'est pas d'utiliser la perspective des Jeux Olympiques pour obtenir ou faire infléchir le gouvernement. Mais si les provocations continuent, on verra ce que nous disent nos équipes, ça va devenir compliqué.
Mylène Jacquot du syndicat CFDT Fonction Publique au téléphone de Claire Chaudière. Je vous parlais du Conseil des ministres il y a un instant. La ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, y a présenté ce matin le projet de loi sur la fin de vie. Il sera examiné, dit-elle, en respectant la liberté de conscience de chacun. Emmanuel Macron lui fait savoir qu'il recevra les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Ce sera le 26 avril. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, qui va devoir gérer un autre dossier brûlant. Cette fameuse taxe lapin annoncée par Gabriel Attal, 5 euros payés par les patients qui ne se rendraient pas à leur rendez-vous médical sans prévenir. C'est entre 6 et 10% des rendez-vous selon les estimations. Alors le Premier ministre comptait sur Doctolib pour collecter cet argent. Victor Delande, vous êtes avec nous. C'est vous qui nous avez révélé ce matin que Doctolib refusait de demander les empreintes bancaires aux patients. Et depuis, rien ne va plus entre la plateforme et le gouvernement.
Oui, le ministère de la Santé n'a pas du tout, mais alors pas du tout apprécié la prise de parole ce matin sur notre antenne du PDG de Doctolib. Pour bien comprendre pourquoi le torchon brûle entre le gouvernement et la première plateforme de prise de rendez-vous médicaux en ligne, il faut remonter quelques mois en arrière. Lors de son discours de politique générale le 30 janvier dernier, le tout nouveau Premier ministre Gabriel Attal assure que lorsqu'on a un rendez-vous chez le médecin et qu'on ne vient pas sans prévenir, on paye. Dans la foulée, les services du ministère de la Santé demandent une note technique à Doctolib sur la faisabilité d'une telle taxe lapin. C'est donc le gouvernement qui demande à Doctolib cette note et non pas l'inverse. Doctolib met toutes les options sur la table, dont l'empreinte bancaire avant le rendez-vous pour pouvoir prélever ces fameux 5 euros. Mais la plateforme met en avant deux points essentiels. Le fait de ne pas entraver l'accès aux soins pour les patients qui n'utilisent pas Internet ou ceux qui n'ont pas de carte bleue. Et le fait de ne pas créer un nouveau fardeau administratif pour les soignants. Selon nos informations, Doctolib est toujours d'accord pour étudier toutes les possibilités pour mettre en œuvre cette taxe lapin. Mais la plateforme persiste et signe il y a quelques minutes encore l'empreinte bancaire avant le rendez-vous. Vous, ce sera sans eux.
Merci Victor Delande pour ces informations.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Généralement, ça marche par deux. Vous roulez trop vite, vous êtes flashé par un radar, et quelques jours plus tard, vous devez payer une amende, et de un, ce qui déclenche le retrait de points sur le permis de conduire, et de deux. Mais depuis le mois de novembre, un bug perturbe le fonctionnement de ce dispositif. Bonjour Océane Zitouni.
Bonjour.
Des dizaines de milliers de conducteurs, au moins, ont payé leur amende, mais ils n'ont toujours pas perdu leur point. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, si on a connaissance de cette information, c'est parce qu'en 5 mois, les centres de récupération de points recensent 32 000 stagiaires en moins. Ce sont des conducteurs qui n'ont pas perdu de points alors qu'ils ont commis des infractions, même si ces dernières ont été réglées par une amende. Alors, vous êtes concerné si vous avez commis une infraction qui ne constitue pas un délit routier. On parle ici de téléphone au volant, d'excès de vitesse de moins de 40 km/h ou encore de refus de priorité, des infractions coûtant jusqu'à 4 points sur votre permis de conduire. Si vous pensez être passé entre les gouttes, il n'en est rien. Le ministère de l'Intérieur s'est bien aperçu du bug sur le site. Il est en cours de résolution, donc tous ces points seront bel et bien retirés de votre permis de conduire. Des dizaines de milliers d'automobilistes risquent donc d'être à la limite, de perdre leur sésame rose et de se ruer sur les centres de récupération de points. De quoi rattraper finalement le manque à gagner de ces centres qui s'élèvent pour l'instant à 8 millions d'euros. Un stage pour récupérer 4 points coûtant 250 euros.
Explication Océane Zitouni. Alors ces radars ont une utilité, ils obligent les automobilistes à lever le pied, à tel point qu'en Dordogne, sur la commune du Bugue, les habitants d'un hameau régulièrement traversé à toute vitesse demandent depuis des années l'un de ces appareils, jusqu'ici sans résultat. Alors ils ont décidé d'agir et de déguiser leur boîte aux lettres en radar. Ça fonctionne. Marc Bertrand sur place.
Les stickers ont coûté 30 euros sur Internet. Deux carrés noirs pour l'objectif, les rubans rayés jaune et noir sur les côtés. Stéphanie et Gérard ont posé la boîte aux lettres sur le portail de la maison.
Il y a des gens qui ralentissent quand ils le voient, parce que comme on peut voir, ils passent beaucoup trop vite.
180, 200 km à l'heure, il y en a qui passent au moins à cette vitesse-là.
On devant. A des motards qui passent à cette vitesse-là. Ah oui. C'est des barges, ils roulent comme des fous. Ils n'ont pas l'air de se rendre compte.
Leur maison est en sortie du hameau, juste quand les voitures mettent plein gaz pour accélérer. Pourtant, c'est limité à 70.
Nous, on a un petit garçon qui va au collège. Il doit faire tout le long là, jusqu'au centre du village devant la gare, à pied. Le soir à la sortie, mais on se dit jusqu'au jour où il y aura un drame.
Le faux radar marche. Jonathan passe dans son berlingot. Il vient d'appuyer par réflexe sur le frein.
Deux fois, la première fois, j'ai ralenti. Bon, après, j'ai rigolé, j'ai vu que c'était une boîte aux lettres, quoi. Ça m'a bien fait marrer.
Mais ça ne fait pas rire tout le monde.
La première boîte aux lettres, ils nous l'ont arrachée du pilier, ils l'avaient balancée dans la cour, et le lendemain matin, il n'y était plus. Elle avait été emmenée. Donc on a réitéré, on en a racheté une autre parce que on va être plus têtu que les autres. Moi je suis charentaise donc.
Cette fois, Gérard a boulonné sa boîte aux lettres radar au muret du portail, comme ça, impossible de l'arracher.
Et sachez que c'est légal d'installer ce type de faux radar à condition qu'il soit installé sur votre propriété. Reportage France Bleu Périgord. Nous avions parlé de ce quartier de Romans-sur-Isère dans la Drôme au moment de la mort du jeune Thomas à Crépol en novembre dernier. Le quartier de la Monnaie, eh bien, jeune de 15 ans, y est mort la nuit dernière, poignardé selon les premiers éléments de l'enquête. Ce meurtre aurait pour origine un motif futile indifférent entre la victime et l'agresseur. Information France Bleu Drôme Ardèche. C'est un profil qui interpelle parmi les arrestations de ces derniers jours contre le trafic de drogue. La mère d'Avallon, dans le département de l'Yonne, placée en garde à vue, comme deux de ses frères. Les enquêteurs ont découvert, dans une maison qui lui appartient, 70 kilos de résine de cannabis et ils la soupçonnent d'avoir joué un rôle dans ce trafic. Delphine Evenou, elle doit être présentée à un juge aujourd'hui.
Trois options se présentent pour Jamila Absaoui. Soit elle repart sans aucune poursuite contre elle, soit le juge la renvoie devant un tribunal pour être jugé, soit il décide d'ouvrir une information judiciaire et de mettre la mère d'Avallon en examen. Tout cela va donc lui être notifié dans l'après-midi. Pendant ces 72 heures de garde à vue, les enquêteurs se sont attachés à déterminer quelle est son implication dans le trafic de drogue sur lequel travaillent les gendarmes de la brigade de recherche d'Avallon depuis plusieurs semaines, si elle était au courant que 70 kilos de cannabis étaient stockés dans une dépendance de cette maison dont elle est propriétaire et où habite son père âgé. L'un de ses deux frères, qui ont aussi passé ses trois derniers jours en garde à vue, l'un de ses deux frères est connu de la justice pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Au cours des différentes perquisitions de dimanche, près d'un kilo de cocaïne, des lingots d'or et 7000 euros en liquide ont également été saisis. Le procureur de la République d'Auxerre a prévu de communiquer dans la soirée.
Delphine Evenou pour ses précisions. Deux nouveaux immeubles évacués ces derniers jours dans le centre-ville de Toulouse après la découverte de fissures. Voilà qui interroge car la situation se répète. Six édifices du centre au total sont désormais concernés. Pour tous les locataires, c'est l'incertitude, impossible de savoir quand et même s'ils pourront réaménager. Morgane Klein-Refait a rencontré les évacués de la rue Saint-Rome. Voilà un mois qu'ils ont dû quitter leur logement.
Apolline récupère des baskets chez elle, rue de l'Industrie.
Ça s'organise dans beaucoup de chaos. Au niveau de l'assurance, c'est assez lunaire. En fait, on m'a conseillé de prendre deux chambres d'hôtel en ayant l'assurance que ce serait remboursé et a priori, ce sera à mes frais. En fait, on attend désespérément les appels de la mairie, du syndic et éventuellement de l'agence qui s'occupe de l'appartement. Tout le monde a des discours contraires, c'est un enfer.
Sa propriétaire lui paye une chambre d'hôtel jusqu'à lundi prochain, mais pour la suite...
On m'a conseillé de rompre mon bail et on m'a envoyé des annonces d'appartement. Là, tout de suite, j'avais pas du tout prévu de déménager. Là, concrètement, j'ai une vue sur mon logement. logement qu'à une semaine.
Même situation pour son voisin Aurélien. Ce Québécois arrivé il y a seulement 6 mois commence déjà à chercher un autre appartement.
J'ai 3 visites demain, ce qui est très contraignant parce que moi je travaille. J'ai appelé mon assurance et j'ai déclaré un sinistre. Ils m'ont dit que ce n'est pas couvert.
Malgré l'arrêté de péril pris hier pour son immeuble, ses affaires sont toujours chez lui, inaccessibles, comme celle de Yanis, évacuée de la rue du Puy-Vert il y a un mois et dont le bail a été depuis résilié.
C'est ça aussi qui est dérangeant, c'est que du point de vue de la loi, je ne sais pas si je pourrais un jour y avoir accès. Et pendant tout ce temps, je ne peux pas les utiliser, quoi.
Ni être dédommagé, car il n'y a pas eu de dégâts dans son logement à lui. L'assurance estime donc ne pas avoir de rôle à jouer.
France Bleu Occitanie, là c'est une enquête internationale qui s'annonce. Elle concerne les pratiques commerciales de la Chine qui inonde le marché européen avec ses éoliennes. Elles sont beaucoup moins chères que celles fabriquées chez nous à un moment où le marché a le vent en poupe. La faute, selon l'Union européenne, aux subventions généreusement distribuées par Pékin aux fabricants chinois. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Vous êtes notre correspondant en Chine. Sébastien, j'ai envie de dire une enquête de plus.
Oui, depuis 2015, la Chine ne cesse d'étendre sa domination sur le marché mondial des éoliennes grâce à des prix particulièrement agressifs, parfois jusqu'à 50% moins chers. Les fabricants chinois écrasent leurs concurrents européens. L'an passé, sur les 5 premiers fabricants au monde, 4 étaient des Chinois. Alors la Chine ne dément pas aider son industrie. Le soutien de l'État fait partie ici de la stratégie pour favoriser les énergies nouvelles. Mais pas de quoi, selon Pékin, susciter une telle réaction de l'Union européenne. C'est ce qu'a dit ce matin Mao Ning, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
La Chine est très préoccupée par les mesures discriminatoires prises par la partie européenne à l'encontre des entreprises chinoises. Le protectionnisme ne peut pas résoudre ses propres problèmes. Nous demandons instamment à la partie européenne de respecter les règles de l'OMC et les principes du marché.
Les éoliennes, c'est la suite du bras de fer commercial engagé depuis plusieurs mois entre Pékin et Bruxelles. Les enquêtes sont portées comme des coups après celle de la Commission sur les voitures électriques chinoises. C'est la Chine qui a répliqué par une autre enquête antitrust visant les spiritueux européens, avec comme principale victime cette fois les grands groupes français Pernod Ricard et Rémy Cointreau.
Merci Sébastien Berriot, en direct de Pékin. Il est aussi question de souveraineté avec le numérique. Avons-nous, nous, Européens, le contrôle sur les données que l'on stocke quand on n'a plus d'espace, par exemple, sur nos smartphones ou sur nos ordinateurs? Aujourd'hui, les députés français doivent voter définitivement le projet de loi pour sécuriser et réguler l'espace numérique. Il va imposer que les données les plus sensibles soient hébergées sur des plateformes sécurisées. En Europe et non plus aux États-Unis, par exemple. Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour.
On sait stocker ces données aujourd'hui en France ?
Oui, et face aux acteurs américains comme Amazon ou Microsoft qui se taillent la part du lion dans le secteur du cloud, il y a des alternatives françaises comme Bleu, OVH ou NumSpot, l'un des derniers venus. Pour le président exécutif de cette jeune entreprise, Alain Issarny, l'enjeu est de proposer non pas une alternative, mais une complémentarité.
Le marché européen est en gros trusté ou occupé par les entreprises américaines à hauteur de plus de 70% de parts de marché. Le sujet que l'on a, nous, c'est, j'allais dire, de pas concurrencer ces entreprises-là, c'est d'offrir un service pour les données qui ne peuvent pas aller chez ces acteurs-là.
Et si la loi est adoptée, les données de santé en particulier devront être hébergées sur des serveurs dont la sécurité est assurée par une certification. Ce sera plus cher, confirme Servane Augier, directrice commerciale de NumSpot, mais cet impératif de sécurité s'impose déjà petit à petit.
Quand on va chercher des qualifications, il y a des enjeux opérationnels, des enjeux physiques qui font qu'il y a un surcoût. Le sujet de la sécurisation des données prend de l'ampleur dans le domaine de la santé, clairement, mais également en fait dans les grands groupes industriels ou publics, même ou parapublics. Il y a une volonté de protéger les données avec des équipes qui ont besoin de ces couches de services.
En janvier dernier, la CNIL a autorisé le stockage de données de l'assurance maladie sur des serveurs de Microsoft basés en France.
Merci Julien Baldacchino, ce qui nous conduit dans les salles.
Moteur.
T'as de bons yeux, tu sais.
J'ai tout gelé mes fesses.
Okay. Pour notre rendez-vous cinéma du mercredi avec les choix d'Alexis Demeyer. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme.
On commence avec votre coup de cœur pour le film japonais « Le mal n'existe pas ». Oui, la nouvelle merveille signée Ryusuke Hamaguchi, après avoir remporté le Grand Prix à Berlin pour ses Contes du hasard, puis le prix du scénario à Cannes pour Drive My Car. Le cinéaste âgé de seulement 45 ans a été cette fois-ci récompensé à Venise pour ce drame rural particulièrement saisissant. La tranquillité des habitants du petit village enneigé de Mizubiki est troublée par l'arrivée d'une équipe de start-upers tokyoïtes bien décidés à développer leur concept de glamping, un camping glamour qui ressemble fort à du bon vieux greenwashing. Mais Takumi, un bûcheron qui élève seul sa fille, va mener la révolte. Le mal n'existe pas et d'une puissance visuelle remarquable. Et c'est aussi un film éminemment politique, une sorte de réponse japonaise au film roumain RMN sorti en 2022. Et pour ne rien gâcher, la scène finale est à couper le souffle.
Un joli film français également en salle ce mercredi, Alexis. Ça s'appelle Rosalie.
Avec Nadia Tereskiewicz dans le rôle titre, celui d'une femme à barbe qui tente d'assumer sa différence dans la campagne française de la fin du 19e siècle.
J'espère juste que vous soyez différent.
Et moi, vous soyez comme les autres.
La dernière fois, vous me demandiez si c'est un vrai phénomène de foire. Une femme à barbe, ça s'en est.
Rosalie est mariée à Abel, joué par Benoît Magimel, un cafetier qui croule sous les dettes et qui ne cesse d'être humilié par un riche industriel local interprété par Benjamin Biolay. 8 ans après La Danseuse, la réalisatrice Stéphanie Di Giusto poursuit son exploration du corps féminin, avec ici une réflexion sur le genre et sur la marginalité. Rosalie dure près de 2 heures et aurait sans doute gagné à être un peu plus resserrée. Les scènes où l'héroïne évolue seule dans la forêt au bord d'un ruisseau et qui évoque un conte médiéval façon peau d'âne sont malheureusement sous-exploités, mais l'ensemble reste très cohérent et mérite largement le détour.
Et puis, c'est le grand retour des chasseurs de fantômes les plus farfelus de New York.
Cinquième opus de la saga Ghostbusters, qui a connu plusieurs castings depuis son démarrage en fanfare dans les années 80. Ce nouvel épisode, intitulé La menace de glace, marque la réunification de la première génération SOS Fantôme, celle de Dan Aykroyd et Bill Murray, avec celle de leurs successeurs et notamment Paul Rudd et Carrie Coon. À l'arrivée, un blockbuster de bonne facture avec des fantômes vraiment, vraiment pas sympas.
Merci Alexis Demeyer pour ses choix. Les fantômes de la remontada sont-ils toujours là au Paris Saint-Germain? En tout cas, après la défaite humiliante de 2017, le PSG retrouve Barcelone ce soir. Quart de finale de Ligue des Champions. Et puis avant cela, cet exploit à Paris ce matin, c'est pas du football, c'est du grimpé de corde. Record du monde de grimpé de corde, battu par l'athlète Anouk Garnier qui a gravi 110 mètres à la force des bras jusqu'au deuxième étage de la Tour Eiffel. Bravo à elle. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Olivier Proust. Puis à 13h30, une prof en lutte contre l'islamisme qui gangrène sa religion et son lycée. C'est Amal, Amal un esprit libre. C'est le titre d'un film qui sort en salle la semaine prochaine. L'actrice Lubna Assabal qui l'incarne et le réalisateur Jawad Ralib sont mes invités. J'attends vos questions. 01 45 24 7000. 13h45, une semaine dans leur vie. Nous sommes avec les chiens policiers et leur conducteur. Le conducteur, c'est le policier qui accompagne ses chiens dans leur mission. 13h50, c'est la France. Il est venu à vélo et sans chien. Éric Fotorino. Bonjour Éric.
Bonjour Jérôme.
Du 1 Hebdo, vous nous parlez aujourd'hui, Éric, du sommeil que nous fuyons.
Et oui, et de la vie moderne qui, avec le travail, la longueur des trajets, les sollicitations permanentes des écrans, fait reculer toujours plus loin le moment de s'endormir.
À tout à l'heure. Et puis la carte blanche, très attendue de Raphaël, les musiques de sa vie et aujourd'hui du jazz.
I've telegraphed and phoned and sent an airmail special too. Your answer was goodbye, and there was even postage due.
Hommage à la légende Chet Baker, ce sera juste avant 14h, à tout de suite.
Radio France est partenaire du Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Rejoignez-nous du 12 au 14 avril pour partager le meilleur de la littérature française et québécoise au Grand Palais éphémère. Au programme, des rencontres et des dédicaces avec Mishka Assayas, André Manoukian, Didier Varro, François-Régis Gaudry et ses amis, Philippe Collin, Thomas Negaroff, le docteur Nazio, Edmond Baudouin et Emmanuel Lepage. Plus d'infos sur radiofrance.com. Billetterie, festivaldulivredeparis.fr. Gratuit pour les moins de 25 ans.
C'est si bon.
Charolaise.
Partenaise.
À l'orléanaise.
À la bolognaise.
À la lyonnaise.
À la mayonnaise.
À la nivernaise.
À la landaise.
À la bordelaise.
À la rochelaise.
À la marseillaise.
À la basquaise.
À la piémontaise.
À la castraise.
Façon Thérèse.
À la française.
Chaud comme la braise.
Chez nous, le bœuf.
C'est si bon.
Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Oui.
France Inter, partenaire de Metal Diabolus in Musica, la première exposition d'envergure sur le métal en France à la Philharmonie de Paris jusqu'au 29 septembre. L'exposition explore les codes du métal, ses sous-genres et ses mythes, à travers des objets et des documents rares, des instruments de légende, des costumes de scène, des concerts mythiques et des iconographies cultes. Metal Diabolus in Musica à la Philharmonie de Paris jusqu'au 29 septembre. Un événement France Inter.
Je vais faire normal, pas en mode métal. Le temps de votre après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur Euromaster.fr.
Bonjour Olivier Proust.
Bonjour Jérôme.
Le temps est encore agité aujourd'hui autour de la Méditerranée.
Avec une dépression entre la Corse et l'Italie qui conduit des averses des Alpes à la Côte d'Azur et jusqu'en Corse où elles sont parfois orageuses. La neige tombe dès 1600 mètres, parfois abondamment d'ici demain matin sur les crêtes frontalières. Et il y a beaucoup de vent en Méditerranée. Mistral et Tramontane sont vigoureux, généralisés en Roussillon, en Languedoc, sur le sud du Massif central et dans toute la vallée du Rhône, depuis Lyon jusqu'à Marseille, avec même des pointes à 100 dans les Bouches-du-Rhône. Ailleurs, les hautes pression garantie un temps stable, dans un ciel variable, parfois nuageux, mais plutôt engageant, avec seulement une courte ondée dans le sud-ouest, voire sur le massif central ou le Jura. Malgré ces hautes pressions, une perturbation atténuée arrive à donner quelques petites pluies en Bretagne qui débordent vers la Normandie et les Pays de Loire. Les températures remontent doucement, elles sont dans les moyennes, avec 13 à 20 degrés du nord au sud. Elles vont commencer à remonter franchement demain, sous le soleil au sud et à l'est, mais sous les nuages au nord.
Merci Olivier Proust, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Un lycée en Belgique, des élèves qui se déchirent sur la question de l'islam et de l'homosexualité. Une élève et une professeure prises pour cible par des islamistes parce qu'elles défendent la liberté d'aimer et de croire. Voilà la trame du film dont nous allons parler maintenant. Il s'intitule Amal, un esprit libre. Il sort en salle mercredi prochain. Nous sommes avec son réalisateur, Jawad Ralib. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et avec nous également, Loubna Assabal. Bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui interprétez le rôle d'Amal, professeur de littérature, qui tente d'ouvrir l'esprit de ses élèves et qui prend des risques pour cela. On parle de ce film avec vous et avec les auditeurs d'Inter qui peuvent nous appeler 01 45 24 7000. Vos questions passent également par l'application France Inter. Je fais un rapide résumé avant de vous donner la parole. Amal est donc professeur de littérature. Une de ses élèves, Mounia, est agressée par d'autres élèves car il la soupçonne d'être homosexuelle. Et comme le dit l'une de ses camarades, c'est haram, c'est interdit par la religion musulmane. C'est en tout cas ce qu'elle croit, car c'est ce que lui a enseigné un autre prof, le prof de religion, d'où cet échange entre cet élève et sa professeure. Amal, nous sommes en cours de français.
Jalila, ça suffit. C'est insupportable. Enfin, tu passes ton temps à agresser, insulter, discriminer tes camarades, alors que, bizarrement, tu te dis toi-même victime de discrimination. Tu peux m'expliquer parce que je comprends pas, là.
C'est pas la même chose.
Si, c'est non, exactement pareil. Non, non. C'est exactement pareil.
Non, non. Les trucs de Monia, les trucs de lesbienne,
oh,
ça, je suis désolée, mais non.
Ça, j'ai un problème.
Elle est là, elle m'a dans les vestiaires, madame. Elle me mate. Elle m'a tué de base.
Regardez comment elle me l'attrape. Ferme ta gueule, toi.
Oh là, elle dégoûte. Putain, ces comportements de couffard, c'est pas une musulmane, ça.
Pour la énième fois, Allah n'a rien à faire dans ma classe. Tu le comprends, ça?
Voilà un extrait d'une de ces scènes en classe. On est toujours sur un fil dans votre film, Jawad Ralib. Vous diriez que c'est une charge contre l'islam radical et ses ravages, notamment à l'école, en Belgique et aussi en France ?
C'est partout. C'est un film universel.
Et donc, je dirais moi plutôt, c'est une charge contre l'islamisme et le radicalisme qui s'immisce dans les affaires de l'école et dans notre quotidien. Donc voilà, je parlerai plus de l'islamisme que de l'islam.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce film? Je crois que vous avez mis très longtemps à l'écrire et vous avez commencé bien avant les assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard.
Oui, complètement. On a été rattrapés par l'actualité. Je dirais pas qu'il y avait une urgence, mais plutôt une réalité qui était là devant nos yeux et beaucoup détournaient le regard. Et donc, il fallait quand même donner la parole à ces profs qui sont abandonnés, isolés, parce que ils osent aborder des sujets dissensibles et qui heurtaient, selon certains, c'est-à-dire les sensibilités, etc., d'une communauté qui baigne parfois dans cet islamisme.
Mais il y a eu un déclic chez vous, il y a eu des discussions, une rencontre peut-être avec des professeurs, avec un professeur, avec une professeure?
Complètement, c'était à l'occasion d'un long métrage documentaire qui s'appelle « Autant les Arabes danser », où j'ai eu l'occasion justement de les avoir tous pendant pratiquement un an dans une salle de cinéma. Et le constat, il était là, c'est-à-dire une peur qui les habite et automatiquement ils s'autocensurent parce que malheureusement il y a des réactions virulentes de la part de parents, etc., qui sont islamisés.
Et ça a été le déclic pour vous et vous vous êtes dit, il faut raconter cette histoire?
Bah complètement, parce qu'en même temps, je m'étonnais de voir plus tard, avec les attentats terroristes contre Samuel Paty, oui, qu'il y avait une absence justement de sujet frontal qui traitait de cette thématique.
Loubna Assabal, comment est-ce que vous vous êtes retrouvée dans ce film? Je crois que vous avez aussi participé à l'écriture avec Jawad Raliba.
Je me suis retrouvée dans ce projet parce que Jawad m'en a parlé il y a, je crois, en 2018, quelque chose
exactement
comme ça.
Ouais.
Et j'ai très vite accepté parce que ça me semblait effectivement important. Que ça faisait partie, qu'on était toutes et tous concernés par ces thématiques-là et que ça faisait partie de notre actualité. Et puis j'avais aussi envie de porter la voix de ces professeurs-là et qu'on puisse les défendre aussi d'une certaine manière et parce que j'ai un amour infini pour ce métier et un respect infini également et je trouve qu'ils sont vachement maltraités en ce moment. L'enseignement en règle générale est vachement maltraité et que c'était important, ouais, de le faire.
Quelle nuance, quelle modification vous avez pu apporter au texte de Jawad Raliba?
Quelle nuance j'avais. J'avais besoin de retravailler certaines séquences, certains dialogues pour pouvoir faire de ce personnage qu'elle soit totalement le mien, quoi, en
ouais,
fait.
Vous l'appropriez.
De me l'approprier totalement, parce que bon, c'est un personnage. C'est un professeur engagé, passionné, qui aime passionnément ses élèves, mais c'est aussi une femme libre. Et puis, j'avais envie aussi de la rendre un peu Antigone, hein, c'est-à-dire cette femme qui refuse de s'agenouiller devant les compromis auxquels elle va être contrainte, ou qu'on la contraint, et elle va faire le choix de la résistance, face à la peur chez certains ou la lâcheté chez d'autres. Donc je voulais donner cet aspect-là aussi chez cette femme. Donc voilà.
L'un des tournants du film intervient Jawad Raliba quand le personnage d'Amal fait lire un poète arabo-musulman du 8e siècle à ses élèves. Il s'appelle Abu Nawas. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui et nous dire à quel moment vous avez, vous, fait sa découverte en littérature, puisque vous l'avez sans doute lu,
oui,
avant de
sûr
le mettre dans cette fiction?
Bien sûr, bah moi je l'ai étudié à l'école. Moi je suis né, j'ai grandi au Maroc, je l'ai étudié à l'école publique, en arabe, et c'était très très cru, comme poème, comme langage, comme le verbe était très cru.
Sulfureux?
Sulfureux, complètement, mais il n'y avait aucun problème à lire ce poète, comme d'autres poètes d'ailleurs.
Parce qu'il parle de ses relations homosexuelles,
bien
notamment
sûr,
dans ses textes.
Et aussi
il
bizarre.
Il boit de l'alcool,
bien
il
sûr
parle des plaisirs.
Exactement, parce que justement, en fait, ce qui est très important de préciser, c'est que l'islam, en fait, et c'est ça que nous, on essaie de défendre dans ce film, c'est din wa dunya, ça veut dire la religion et la vie. On peut très bien boire un verre d'alcool et le soir faire sa prière en toute intimité. Et donc ce poète, ben, il a disparu depuis quelque temps, il a disparu des manuels scolaires, des bibliothèques, des librairies, et moi j'avais envie de le faire revivre et de l'afficher comme ça, au monde entier.
Et ça met le feu aux poudres, Lubna Sabal. C'est vraiment le déclencheur de tout ce qui suit dans le film. Lorsque votre personnage met cet auteur-là sur la table.
Oui, ça met le feu aux poudres, mais c'est là où elle comprend qu'ils sont sévèrement sous influence, en fait. Voilà, et parce que elle pense bien faire en allant chercher des codes linguistiques, en se disant bon, voilà, elle va chercher un poète arabo-musulman qui date du 8e siècle et faire un coming out au 8e siècle quand on est musulman. On peut dire que c'était bien plus compliqué qu'aujourd'hui. Et elle essaye de leur expliquer que d'abord que l'homosexualité existe depuis la nuit des temps, c'est pas une coquetterie, hein, ouais. C'est pas quelque chose, voilà. Et qu'ensuite, ce n'est absolument pas incompatible avec la foi. Qu'on porte, peu importe quelle foi, puisque la foi est quelque chose qui est intime, c'est un rapport intime entre soi et le Dieu et le ciel qu'on vénère, quoi, voilà. Et en fait, oui, ça part en vrille, ça part totalement en vrille, et probablement qu'elle s'y attendait pas du tout, quoi. Mmh. Donc c'est là qu'elle comprend que derrière cet harcèlement, il y a une influence qui est de l'ordre de d'une nébuleuse extrémiste.
Et qu'il est organisé.
Et qu'il est organisé. Et elle apprendra qu'effectivement, c'est dans l'enceinte même de l'école que ça se passe, quoi. Et là, c'est là où elle décide de prendre aussi, de ne pas lâcher, quoi.
Avant d'écouter un autre extrait, il faut rappeler cette particularité belge, Jawad Ralib. Il y a des cours de religion en Belgique à l'école.
Oui, tout à fait.
Il n'y a pas le principe de laïcité.
Il y a les écoles catholiques, mais il y a aussi les écoles publiques où il y a des options. Il y a le cours de morale, mais les cours aussi de religion. Et les parents, généralement, les parents d'enfants musulmans, ils les mettent dans ces cours de religion. Mais le plus grave, ça c'est pas très grave, mais le plus grave, c'est que c'est un organisme musulman qui désigne les profs de religion.
Et la question, c'est comment la religion est enseignée et quels sont les contrôles
et les influences.
Voilà, et les influences. Lorsque ce poète est étudié en classe, il y a beaucoup de remous, les parents interviennent, l'institution scolaire est secouée et la proviseure va organiser une réunion avec les profs. La question est la suivante. Une élève est harcelée en raison de son homosexualité supposée. Que faut-il faire ?
On a besoin d'apaisement. Je veux dire, ça sert à rien de leur matraquer un enseignement qu'ils n'ont pas envie d'entendre. De toute façon, tu pourras faire n'importe quoi, il y aura toujours un problème, ok ? Tu vois bien qu'on a affaire à une secte, là. On n'a pas affaire à des gens normaux qui réfléchissent normalement. Mais évidemment, tu vois bien que c'est pas... On n'est pas devant des musulmans, enfin, je veux dire, lambda. Enfin, tu vois bien, là, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est Abou Nawaz. Demain, ce sera quoi ? Louis de Funès ?
Non, ce que je te demande, tu vois, c'est de pas faire de vagues, d'essayer que ça se tasse, ou sinon, j'ai peur pour toi, en fait.
Non, mais attends,
j'ai
peur pour les questions, je me plie à leur doléance, mais ça va pas,
s'il
ou quoi
te plaît.
Mais qu'est-ce que tu me demandes, là?
Mais je te demande pas de pas enseigner comme t'as envie, je te demande juste de mettre un petit peu d'eau dans ton vin, de pas enseigner des auteurs qui...
Qui quoi sont, tu parles du quoi?
Non,
pas enseigner des auteurs homosexuels?
Voilà, pas de vagues.
Ouais, en fait, c'est juste pour rectifier. La proviseure n'organise pas en fait la réunion avec les parents. Les parents forcent la porte de l'école
et rentrent dans l'école pour demander des comptes.
Exactement.
En fait, mais il y a aussi cette réunion qui est organisée parce qu'il y a beaucoup d'émoi avec les profs. Et là, la proviseure demande à Amal de calmer le jeu. Finalement, ça aussi, les professeurs que vous avez rencontrés vous l'ont dit.
Complètement, complètement. C'est-à-dire que, en fait, c'est aussi simple que ça. On a en fait une minorité. Il faut insister là-dessus. On le répète pas assez. Qui crie, qui menace, qui harcèle, et les autres, notamment les profs surtout, l'institution, ils ont peur de cet harcèlement. Et donc automatiquement, la seule chose que la directrice peut faire, c'est d'essayer de calmer, de mettre la poussière sous le tapis.
Il y a cette élève, Mounia, très courageuse, qui fait front. Il y a votre personnage, Lubna Sabal. Et puis, il y a la majorité silencieuse. On le voit dans les échanges en classe. Il y a beaucoup d'élèves qui ne disent rien, qui ne prennent pas la parole. Et il y a une espèce de malaise qu'on ressent quand on voit cette attitude, mais qui correspond aussi à des attitudes que l'on peut connaître ou qu'on a déjà constatées, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'elle essaye de justement de les faire parler, qu'elle organise des débats, qu'elle essaye de en tout
cas. Oui, il y a un débat sur la peine de mort.
C'est ça. Moment. Le film s'ouvre un peu, s'ouvre là-dessus d'ailleurs sur la peine de mort. Et parce que encore une fois, dans l'école, c'est là où se jouent beaucoup de choses. Et c'est bon, c'est l'un des ciments d'une société saine, mais c'est aussi là où se joue probablement également l'avenir de la démocratie, quoi. Donc parler, c'est ça aussi. C'est, je veux dire, cette liberté d'expression, avoir le libre arbitre, la liberté d'être, d'exister. Enfin, je veux dire, ce sont toutes ces choses qui nous ont l'air comme ça. Ça a l'air normal.
Donner à qui ?
Donner à qui ? Mais ce n'est pas tant que ça. Il faut sans cesse le rappeler. Et Amal, c'est quelqu'un qui se bat pour ça, et à travers son enseignement, mais dans sa propre vie aussi. Donc, et elle essaye d'éveiller cette conscience-là chez ses élèves, à travers effectivement la lecture, à travers...
Parce que l'école est victime de l'islamisme radical dans votre film, mais c'est aussi un remède, l'école. Et il y a beaucoup d'éléments dans le film qui portent cette idée-là.
Oui, mais parce que je pense qu'on... Mais ça, c'est ce que je crois aussi dans ma vie personnelle, dans ma propre vie. C'est que je pense qu'on nous sommes aussi les antidotes de tous les extrêmes. Mais pour ça, il faut briser le silence pour ça. Pour que ça marche, il faut casser ce silence et casser la peur et oser aborder les mots de nos sociétés, quoi, sans tabou, quoi.
Jawad Ralib, c'est un sujet, vous le savez, extrêmement sensible, extrêmement polémique. À quel type d'accueil est-ce que vous vous attendez pour ce film, à la fois en Belgique et en France ?
Bah, en Belgique, le film, il est à sa 10e semaine. Il fonctionne super bien. On est à 27 000 entrées. En Belgique, c'est énorme. C'est ce qui équivaut à 500 550 000 en France.
D'accord.
Et en France, on commence et on a déjà démarré des festivals, Carcassonne, Albi, etc. où on a toujours eu le prix du public. Ça, c'est important de le dire. Et pour le moment, l'accueil, il est formidable. On va voir ce qui va se passer après.
C'est aussi un objet politique. Ce film, quand on s'empare d'un sujet comme celui-là, on le sait et on le fait à dessein.
Bah, bien sûr, mais ça, on peut pas échapper à ça. Donc, notre vie, elle est baignée dans la politique. Et donc, à partir de là, le film ne nous appartient plus. Donc, il appartient au public et chacun va pouvoir l'utiliser pour communiquer avec son vécu, ses bagages, ses envies, etc., etc. Mais on sera là pour veiller à rectifier un peu. Certaines choses.
Ça veut dire que vous avez peur qu'il puisse être récupéré, complètement, par exemple ?
Complètement, parce qu'en fait, il y a deux choses. C'est que, d'abord, on en avait marre...
D'en faire une arme anti-islam, pour le
exactement,
dire rapidement.
Exactement, parce que justement, on parle pas... C'est-à-dire, ici, on parle de l'islamisme, et au contraire, on défend les principes de l'islam, qui sont des principes d'ouverture, et dans lesquels, nous, on a baigné dans cette culture. Et donc, on en avait marre d'entendre, à longueur de journée, l'extrême droite qui met tout le monde dans le même sac, et de l'autre côté, on a des islamistes qui parlent en notre nom et qui crient Allahu Akbar chaque fois qu'il y a un acte, etc. Et donc, pas en notre nom. Ça, c'est important à le dire. Et donc, c'est pour faire bouger les lignes et réveiller un petit peu ces silencieux qui doivent nous rejoindre et parler aussi.
Beaucoup de messages pour saluer votre démarche via l'application France Inter. Je vous transmets ces félicitations. Merci d'être venu nous parler de ce film. Merci. Qui sort donc en salle en France mercredi prochain. Amal, un esprit libre, Jawad Ralib, Loubna Assabal.
Merci.
Merci à tous les deux. Merci. 13h47 sur Inter. Une semaine dans leur vie, cette semaine, notre feuilleton pour découvrir la vie de chiens dont on parle beaucoup en ce moment. Ce sont les chiens policiers mobilisés dans la lutte anti-drogue, la lutte anti-terroriste également. Et nous retournons avec Ariane Grissel, là où ils sont formés, à Cannes-Écluse, en Seine-et-Marne, où ils bénéficient d'un soin tout particulier.
En ce moment, nous avons 20 chiens. Thémis, Torok, Kaiser, Thor, Snow, Tyson, Sky, Torgal, Rolf, Kita, Thiago, Motus, Shark, Una, Abu, Diesel, Renzo, Chiara et Rix. Rix qui doit partir dans 2 semaines à Nouméa. Oui, mais j'aimerais bien partir avec lui. Oui. Donc il est affecté avec son conducteur à la recherche de produits stupéfiants à Nouméa. Sur ce tableau est notée la ration propre à chaque animal. Je prends un exemple, on va prendre Thor. Il a 2 gamelles 3/4 On peut considérer que ce sont des sportifs de haut niveau. Le chien est pesé toutes les semaines et si on constate une variation non expliquée de son poids de forme de plus ou moins 1 kg, on fait retour auprès du vétérinaire pour qu'il nous assiste pour savoir si le chien justement n'est pas atteint d'une maladie ou s'il ne rencontre pas un problème particulier. La distribution des rations et des repas se fait une fois par jour lorsque le chien a travaillé. Ça évite de faire travailler le chien avec le ventre plein et donc ça nous évite un risque de retournement d'estomac sur les grands chiens, c'est très important. Et les chiens mangent tous ensemble le soir à 17h. On interdit les apports un petit peu personnels, c'est ce qui nous a été dit par nos nutritionnistes. Une petite portion de vache qui rit dans une gamelle comme ça, c'est équivalent à un hamburger. Tous les chiens sont entraînés à travailler avec des chaussons de protection pour les pattes. Dans chaque stage, on a une phase d'apprentissage au chien à travailler avec des chaussons pour se protéger les pattes ou justement pour travailler dans des endroits qui sont des sols peut-être pollués par du verre ou par d'autres substances. Et donc là, on protège les pattes des chiens qui sont justement sensibles.
Donc en intervention, ils ont aussi les protections ?
Ils peuvent, en fonction de la situation, équiper leur chien parce qu'ils sont dotés de protection au niveau des pattes. Le deuxième lieu qui pour nous est important, c'est l'infirmerie. Donc ici, l'infirmerie, elle sert principalement à la pesée des chiens, aux premiers soins. On a tous été formés aux premiers soins animaliers avant transfert auprès du vétérinaire. Et ce que vous avez ici, ce sont trois box, dites box sanitaires, box d'isolement, qui sont chauffées, ventilées, de manière à pouvoir positionner ici les chiens qui sont malades ou qui sont en soins. Ici, c'est le bâtiment administratif. J'ai eu plusieurs chiens, dont un qui a terminé sa carrière chez moi, à la retraite, à la maison, sur le canapé. Tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, en fait. Pour tout conducteur, c'est particulier, parce qu'en fait, le chien ne vous appartient pas réellement, il appartient à l'administration. Néanmoins, vous le considérez comme votre plus fidèle compagnon. Je ne me suis jamais autant senti en sécurité qu'avec mon animal. Des moments où moi, j'y crois pas, et le chien me dit, si, pars pas, arrête-toi, c'est ici. Toi, t'as pas vu, mais moi, je sais, j'ai senti. Parfois, le défaut d'un conducteur, c'est de penser à la place du chien. Et rapidement, il vous rappelle à vous, fondamentaux, en vous disant, ben, c'est moi qui cherche, c'est moi qui trouve. Certes, j'ai besoin de toi dans le cadre de ma quête, mais le nez, c'est le mien. Et parfois, vous y croyez pas, et vous cassez un mur, et derrière, vous trouvez. Et là, vous vous dites, mon Dieu, même moi, j'y croyais pas, quoi. Alors qu'en fait, on travaille, on fait ça 8 heures par jour depuis plus de 20 ans.
Les chiens policiers dans notre feuilleton cette semaine. La suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France. À 13h51, le mercredi, Eric Fotorino du 1 Hebdo nous dépeint cette France qui change sans qu'on le voit. Et Eric, aujourd'hui, vous nous parlez d'une France qui dort de moins en moins.
Et oui, sans doute avons-nous bien des raisons d'éprouver ce que Michel Blanc avait nommé dans son film une grosse fatigue.
Ouais.
L'actualité nous épuise par son lot de drames intimes ou collectifs qui font, comme on dit, la une des médias. Mais la sensation de fatigue que nous pouvons éprouver à titre individuel prend sa source, cher Jérôme, dans le sommeil, ou plutôt dans le rétrécissement des aires de sommeil dans nos journées. Sur 24 heures, l'idéal pour des adultes serait de tomber dans les bras de Morphée pendant 7 à 8 heures d'affilée, et de pousser le plaisir de dormir jusqu'à 9 voire 10 heures pour les adolescents que nous ne sommes plus ni vous ni moi.
Je vous confirme.
Or, la réalité est loin de ces idéaux de repos. Les Français dorment en moyenne 6h58 par nuit et environ 8h le week-end, nous dit le professeur Damien Léger dans le 1 Hebdo qui paraît aujourd'hui. Il y a encore 10 ans, poursuit le patron du Centre du Sommeil et de la Vigilance de l'Hôtel Dieu, 20 à 22% de la population déjà dormait moins de 6 heures. Et cette proportion est actuellement de 35%. Selon le professeur Léger, la situation est inquiétante pour les lycéens, mais aussi désormais pour les collégiens qui sacrifient les temps de sommeil réparateurs à d'autres activités. Vous l'avez deviné, l'addiction aux écrans et aux réseaux sociaux vient entamer les nuits des plus jeunes pour qui dormir serait du temps perdu.
Allons-nous, Eric, vers une société où les gens ne dorment plus, c'est pas possible.
Non, nous n'en sommes pas là, mais même si les Français dorment la nuit en moyenne 1h30 de moins qu'il y a 50 ans.
Ah, quand même.
Oui, d'après les travaux de l'INSERM, qui analyse la quantité mais aussi la qualité de notre sommeil, une personne sur trois est concernée par ces troubles nocturnes. 45% des 25-45 ans avouent dormir moins que ce dont ils ont besoin pour se sentir en forme, les mêmes qui sont accros aux écrans, me direz-vous. Si les jeunes enfants connaissent ce qu'on appelle des terreurs nocturnes, la narcolepsie, c'est-à-dire des phases diurnes de somnolence ou d'endormissement irrépressible, concerne une personne sur 4000. Et 8% de la population française adulte connaît le syndrome des jambes sans repos qui provoque la nuit des secousses musculaire. Notons encore que nous sommes inégaux face au sommeil, comme l'explique la sociologue Capucine Roche dans le 1 Hebdo, sur la base d'enquête de l'INSEE.
Oui.
Les cadres sont ceux qui dorment le moins pendant les jours travaillés. Les jours non travaillés, ce sont les ouvriers qui dorment le plus et les agriculteurs le moins. Quant aux personnes en couple, elles se couchent en général plus tôt que les personnes seules.
Tiens donc.
Voilà. Et lorsque la femme se lève plus tôt que son conjoint, elle s'occupe des travaux ménagers davantage que l'homme qui se lève tôt et aurait tendance, figurez-vous, à ne se que de lui.
C'est bien, vous avez provoqué le débat dans les foyers, Eric. Alors au final, comment est-ce qu'on peut améliorer son sommeil ?
Alors, aller se coucher plus tôt, ne pas regarder les écrans au lit, ce sont des conseils de bon sens. En attendant l'essor de ce qu'on appelle déjà la sleep tech, ces nouvelles technologies d'autosurveillance du sommeil par des capteurs qui en mesurent chaque phase et nous permettront bientôt de nous connaître lorsque nous dormons. Cette tendance à accumuler des datas sur notre sommeil est, paraît-il, promise un grand avenir, moi, elle m'empêcherait plutôt de dormir.
Est-ce que vous avez décidé de dormir davantage à l'issue de la réalisation de ce 1 Hebdo ?
Absolument. Et vous savez, quand le sommeil vous appelle, il faut surtout répondre. Et je ne réponds pas assez.
Bon, eh bien, vous allez donc changer. Et c'est une bonne chose. Merci, Eric Fotorino, du 1 Hebdo. Je vous garde, Eric, parce que je sais qu'elle vous séduit, cette carte blanche au chanteur Raphaël, toute cette semaine sur Inter, à l'occasion de la sortie de son dernier album, Une autre vie, 5 titres qui ont marqué sa vie. Et aujourd'hui, c'est une chanson de jeunesse.
Bonjour, quelle joie de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Chet Baker et d'une chanson qui s'appelle Everything Happens to Me. Moi, ça me fait penser à mes années d'adolescence. C'était l'été pour moi, c'était juin, juillet, août, comme ça, quand j'étais un peu échoué à Paris. J'avais toujours une guitare sur le dos que je promenais dans une housse. Et puis j'allais d'un endroit à un autre, le parc, de temps en temps, je m'achetais un demi de bière et je regardais le monde comme ça avancer. Moi, je me sentais un peu sur le bord, je sais pas pourquoi, ou j'avais en tout cas le sentiment de pas beaucoup avancer. C'était des années où j'essayais de faire de la musique et où j'étais fasciné par cette voix, on aurait dit une voix de petite fille, quoi.
I make a date for God.
Un chuchotement et en même temps
and you can bet your life it rings.
Une coolitude totale.
I try to give a party.
Il avait vraiment quelque chose d'un ange fracassé, quoi.
Guy upstairs complained.
Et je sais pas pourquoi je m'identifiais beaucoup à ce,
I guess I'll go
cet ange
tonight.
Cet ange fracassé là.
Just catching colds and missing trains. Everything happens to me.
Les paroles de cette chanson racontent l'histoire de quelqu'un d'assez qui a pas de chance, quoi. C'est un peu le Pierre Richard dans la chèvre. C'est quoi qu'il fasse, ça se passe pas bien. Ça commence vraiment par un truc très bourgeois. Je me fais un rendez-vous pour du golf et il se met à pleuvoir. Ça, c'est vraiment très chic. J'aime beaucoup au début. Il essaie de faire une fête et puis les voisins se plaignent. Il joue au poker et ça se passe mal. Il rate un train, il attrape la scarlatine adulte ou la varicelle adulte. Voilà. Tout déconne et le truc qui déconne le plus, c'est que la personne qui l'aime lui répond pas, quoi. Et c'est une chanson délicieuse d'un amour déçu, mais avec beaucoup d'humour.
I've telegraphed and phoned and sent an airmail special too. Your answer was goodbye and there was even postage due. I fell in love just once.
J'aime beaucoup les chansons de losers. Je trouve qu'on a aujourd'hui beaucoup de chansons de winners, quoi. C'est vraiment le monde aujourd'hui, c'est le monde des winners, quoi. C'est le monde des réseaux sociaux. C'est regardez, j'ai 60 millions de personnes, je sais pas quoi, et je fais les défilés. Et c'est pas Chet Baker, c'est vraiment l'inverse de Chet Baker. Je vais vous proposer une version de Everything Happens to Me. Je suis vraiment très loin d'être un jazzman. Donc, je vais le faire d'une manière très simple, mais c'est un grand standard de jazz, quoi. Et je pense que pour la chanter, il faut être très, très, très relax, quoi.
I make a date for golf and you can bet your life it rains. I try to give a party and the guy upstairs complains. guess I go through life just catching cold and missing train. Everything happens to me. At first, my heart thought it could break these chains for me. Telegraphed and phone and send an airmail special to your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once, and then it had to be with you. Everything happens to me.
On se retrouve demain pour de nouvelles aventures.
Merci Raphaël, et à demain. Ces cartes blanches sont à retrouver sur le site d'Inter sous le titre Raphaël & Co.